Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. En souhaitant une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons ce matin partager sept choses les plus importantes que nous devons savoir sur le sang de Jésus. J'ai vraiment à cœur de vous partager des choses puissantes, des vérités puissantes sur le sang de Jésus. Parce que vous savez, il y a des choses qui sont immuables dans nos vies. Il y a des vérités qui doivent être implantées en nous, qui sont de puissantes vérités qui doivent nous permettre de sceller des convictions, de ne pas se faire tromper à tout vent de doctrine, ni même de pouvoir se faire écarter parce que des gens viennent dans notre vie et créent du désordre sous le couvert de Dieu ou de certaines révélations. Le sang de Jésus va et est une grande puissance dans les enfants de Dieu et dans le royaume de Dieu. Nous allons voir qu'il y a sept choses très importantes qu'on doit connaître et sur lesquelles nous basons notre foi. On va lire Matthieu chapitre 27. Et on va regarder l'arrestation du Seigneur. Et d'après ce texte, je vais vous montrer un certain nombre de réalités spirituelles concernant le sang de Jésus qui a coulé pour nous dans son sacrifice. C'est des vérités sur lesquelles vous devez appuyer votre foi et dans lesquelles vous devez vivre. Ça vous aidera beaucoup à marcher dans les réalités de ce qu'il a fait pour vous. Je vous rappelle que la croix est l'événement central de l'humanité. Ce n'est pas un événement parmi tant d'autres. C'est l'événement suprême sur lequel tu vis et tu as la vie éternelle. Donc la parole de Dieu va nous dire, je vais le lire en français parce que le passage est un petit peu long. On va lire à partir du donc Matthieu chapitre 27 à partir du verset 11 et nous allons découvrir un certain nombre de choses que Jésus a subi. Et ce n'est pas pour rien. Nous allons découvrir la valeur du sang divin qui a coulé pendant le sacrifice. Nous allons découvrir pourquoi, lorsque le sang de Jésus va couler de son corps, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui va se produire? C'est pourquoi nous pouvons appuyer notre foi. Nous allons découvrir aussi la différence entre le pardon et la purification. Parce qu'il y a des choses que certains, vous n'avez pas bien compris dans votre vie spirituelle. Donc on va lire à partir du verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit : N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, Sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander à Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Hein, » Parole malheureuse. Revenons en arrière. Oui, la suite, merci. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui la cohorte, c'est-à-dire les soldats. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate, rouge. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans sa main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient ou se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et le frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Alors, ici nous allons voir que lorsque Jésus va se faire arrêter, il va y avoir du sang qui va couler de son corps. Souvent, nous pensons que le sang de Jésus va couler seulement lorsque Jésus va être crucifié, c'est-à-dire qu'on va mettre les clous dans ses pieds et dans ses mains. Nous allons voir que ça ne va pas être le cas. Nous allons découvrir qu'il y a 7 choses importantes qui concernent le sang de Jésus que vraiment vous devez connaître. Nous verrons le sang divin. Nous verrons que ce sang est aussi une garantie. Nous verrons aussi que Jésus a versé son sang 7 fois. Pour différents domaines. Nous verrons le sang au niveau du pardon. Nous verrons le sang dans la purification. Nous verrons le sang pour la victoire totale contre les puissances sataniques. Et nous verrons que le sang aussi vient toujours avant l'onction. Nous allons étudier tout cela. La première chose que nous allons voir, bien sûr, c'est que le sang qui a coulé du corps de Jésus était un sang divin. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Cela fait partie de la préparation que Dieu avait faite au travers de la naissance de Jésus. Si Jésus avait été conçu comme nous, avec une relation donc entre Joseph et Marie, le sang de Jésus n'aurait pas eu plus de valeur que le vôtre ou le mien. On aurait pu prendre Jésus, on l'aurait cloué sur la croix, son sang aurait coulé et ça n'aurait eu aucun impact dans le monde spirituel. Jésus aurait été un simple martyr comme n'importe qui meurt pour une cause. Quelqu'un qui va mourir parce que la société dit non, ou certaines personnes qui se sentent en danger dans leur leadership veulent attraper cette personne et vont tuer cette personne. Donc la première chose qu'il faut comprendre dans le sang de Jésus, c'est que c'était un sang divin. Regardons ensemble dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Au verset 35. La parole de Dieu va nous montrer cette conception miraculeuse de Marie. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais passer assez rapidement. Mais là, je suis en train de revoir les enseignements sur la croix. C'est vraiment important. Pour comprendre la croix, les effets de la croix, les conséquences de la croix. Et nous avons besoin de revenir régulièrement sur ces vérités. D'être fondé sur ces vérités. Donc la première chose que nous devons savoir, c'est que ce sang qui était dans les veines de Jésus, c'était un sang particulier. Et on va comparer le sang que Jésus avait dans son corps avec le sang que nous avons dans notre corps. La parole de Dieu nous dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est Marie, hein, bien sûr, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Amen.
Au verset 31, l'ange dit, voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie pose la question, verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme. C'est là où l'ange lui dit, tu vas être visité par la puissance de Dieu.
Et
nous savons tous que Marie va tomber enceinte alors qu'elle était vierge. Et Dieu a fait un miracle. Vous savez, aujourd'hui, dans les techniques médicales, on a découvert parfois, vous savez, il y a des hommes ou des femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Et on fait ce qu'on appelle une insémination artificielle, c'est-à-dire on implante un ovule fécondé avec un spermatozoïde. Et après, des femmes peuvent concevoir comme ça dans certains cas. On a découvert ça au XXe siècle. Dieu a fait ça bien avant, 20 siècles plus tôt. Et il a pas pris le spermatozoïde de Joseph avec l'ovule de Marie. On fait un cours de génétique pour que Steve apprenne quelque chose aujourd'hui. Pardon, Steve. Et en fait, donc Dieu a fait un miracle dans le sein de Marie volontairement. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'au verset 35, il est dit qu'il sera appelé fils de Dieu ? Dont le Père est Dieu. Donc c'est pas Joseph le papa naturel, c'est Dieu le Père, le papa naturel de Jésus entre guillemets dans son corps. Pourquoi ? Parce que Dieu a voulu éviter tout ce que nous connaissons nous. Adam était fils de Dieu.
Adam,
il n'était pas Dieu le Fils, il était fils de Dieu. Ça veut dire dont Dieu était le Père, parce que papa Adam, personne ne l'a connu. Dans le naturel, puisqu'il n'y a jamais existé. C'est Dieu qui a créé Adam. Et quand Dieu a fait de la poussière de la terre, a formé le corps d'Adam, lorsqu'il a soufflé en lui, créé son esprit et son âme, la Bible nous dit que Adam est devenu un être vivant, une âme vivante. À ce moment-là, le sang divin a coulé dans les veines d'Adam. Et Adam était sans péché au départ. Il ne pouvait pas tomber malade. Il ne pouvait pas vieillir. Il ne pouvait pas se blesser et mourir de quoi que ce soit. Il était parfait esprit, âme et corps. Et nous savons que c'est parce qu'il a péché que son sang est devenu corrompu. Que le processus de mort spirituelle a engendré le processus de mort physique chez Adam. Ève a fait la même chose aussi. Et après, ils ont eu des enfants dont nous sommes tous issus. Et au travers de cela, nous avons récupéré cette malédiction de la chute au niveau de nos corps. Nous savons que le sang qui coule dans nos veines, c'est un sang qui est attaquable par la maladie, avec les histoires de globules. Dit-il avec le sweet accent burundais. Amaglobuli. Je ne sais pas pourquoi on met des i partout à la fin, mais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, à cause du péché, le sang d'Adam et Ève a été corrompu. Ce qui fait que tous les descendants d'Adam et Ève dont nous faisons partie, sont sujets à être attaqué par la maladie. Et évidemment, le processus de mort est en nous. Un sang comme cela ne pouvait pas racheter qui que ce soit. Sinon, n'importe qui aurait pu essayer de dire, moi, je veux être le sauveur, je vais donner ma vie pour vous. Si un jour vous entendez un farceur dire ça, Vous le chassez avec un coup de bâton, et si vous cassez le bâton, vous venez, je vais vous ordonner un tout neuf. Parce qu'il y a beaucoup de farceurs. Jésus n'était pas un aventurier. Jésus n'était pas un farceur. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que le sang qui coulait dans les veines de Jésus était un sang parfait qui venait du Père. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que ce sang va avoir une valeur extraordinaire. Une valeur fabuleuse. Jean-Baptiste, quand il va voir Jésus, il va faire une déclaration prophétique. Dans Jean chapitre 1, au verset 29, il va vraiment nous dire quelque chose de très particulier. Jean chapitre 1, lorsque Jean va présenter le Fils de Dieu, il va recevoir une révélation. Rappelez-vous, Jean était prophète. Et il a reçu un certain nombre de révélations, Jean-Baptiste. C'était pas le prophète qui se tenait dans les rues en disant « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel ». Mais Dieu lui a donné un certain nombre de visions qui se sont accomplies dans son ministère. Et là, il va donner une révélation.
C'est
une révélation que le Père lui avait donnée à propos de Jésus. Le lendemain, c'est Jean-Baptiste, vit Jésus venir à lui, donc venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est une pure révélation que Jean avait reçue. Jean-Baptiste avait reçu ces choses. Que Jésus allait devenir. Rappelez-vous, Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Jean chapitre 1, Jésus n'avait pas encore fait le premier miracle, parce que le premier miracle que Jésus va faire, c'est dans Jean chapitre 2. Donc dans Jean chapitre 1, là, quand Jean-Baptiste dit cela, il prophétise sur le Seigneur. Parce que le Père lui avait montré que Dieu le Fils, dans la personne de Jésus-Christ, il deviendrait cet agneau. L'agneau qui était un symbole pour le peuple d'Israël.
Dans
tout l'Ancien Testament, les agneaux qu'ils sacrifiaient ou ils versaient du sang pour que leurs péchés soient couverts. L'agneau que le prophète Ésaïe avait prophétisé 700 ans avant. Jean savait qu'il y avait quelque chose. Jean-Baptiste savait que Jésus serait l'agneau, le sacrifice suprême qui allait verser son sang et dans lequel, au travers duquel le péché du monde pourrait être ôté, pardonné, purifié. Donc c'est la première des choses que vous devez savoir sur le sang de Jésus, c'est que c'était un sang particulier. Un sang divin qui va couler et qui va pouvoir avoir un pouvoir de rachat. La deuxième chose que nous, devons, que nous allons voir maintenant, c'est que le sang de Jésus est une garantie. C'est la garantie de notre alliance. Ce sang va représenter ce par quoi Dieu va nous dire « Je fais alliance avec vous ». Que ce n'est pas simplement des paroles à droite à gauche que Dieu va dire comme ça, mais qu'il va prononcer les paroles et il va les sceller avec son fils, le sang de son fils.
Hébreux
chapitre 7 verset 22. Vous savez, l'alliance est quelque chose de très important sur lequel vous devez méditer. Hébreux 7 verset 22, l'alliance c'est quelque chose sur lequel vous devez méditer parce que de l'alliance découlent vos promesses. Et à partir des promesses, vous allez pouvoir générer quoi? La foi. Et la foi fait quoi? Libère la puissance de Dieu dans nos vies. Donc vous voyez, c'est un peu une pyramide. Tout en haut, il y a l'alliance. Si tu commences à douter un peu de l'alliance, tu auras du mal à mettre ta foi quelque part, à accrocher ta foi quelque part. Tu vas éclater, tu vas dire oui mais c'est vrai, mais je prie et Dieu n'agit pas, je souffre, ça ne va pas, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que Dieu a fait une alliance avec toi et qu'il y a mis une garantie. Il a mis une garantie. Une garantie, c'est ce qui oblige Dieu d'agir en notre faveur. C'est ce qu'on appellera l'immuabilité de quoi? Des promesses, de l'alliance que Dieu a fait. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas changer ces choses, ça ne peut pas bouger. Si au niveau de ta vie, tu ne vois pas les choses s'accomplir, regarde à propos de comment tu te considères par rapport à l'alliance que Christ a faite avec toi. L'alliance est quelque chose de sacré selon Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas revenir dessus. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Nous les hommes, parfois, nous nous engageons dans des trucs et au bout d'un moment, on se dit « Ouh là là, j'aurais pas dû m'engager ». Et ça nous pose des problèmes dans la vie. Des fois, tu vas promettre à quelqu'un quelque chose et puis, par exemple, une somme d'argent, puis d'un seul coup, tu as un problème qui arrive dans ta vie. Et tu te retrouves avec vraiment une difficulté parce que si tu es quelqu'un qui parle et qui accomplit ce qu'il dit,
ukisanga mu ngorane kuko iyo umuntu uvuga ukagomba gushitsa ibyo
wavuze. Tu te trouves vraiment extrêmement gêné.
Urumva ubabajwe nuko udashikije icyo wasezeranye.
Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent comme ça à la légère.
Ikibabaje nuko hari benshi bavuga gutyo gusa tacho bizeye
gushitsa. Je te promets, je te donnerai, je ferai ça.
Ndakwemereye iki nzokora iki?
Et ils n'ont aucune intention de le faire.
Mu mutwe ntiyabe hariyo na gato ko azobikora.
Vous savez frères et sœurs, les gens qui sont comme ça,
abantu bameze mwe nuko,
ils ont du mal avec Dieu.
Nabo birabagora hamwe n'ivyimana.
Pourquoi? Parce que Dieu fonctionne avec sa parole.
Kubera iki Imana ikorana n'ijambo ryayo.
Quand tu n'es pas quelqu'un d'intégrité, c'est-à-dire tu ne fais pas ce que tu dis.
Iyo uri umuntu udakora icyo wavuze.
Et que tu es quelqu'un qui n'a aucune intention de faire d'ailleurs quand tu promets quelque chose.
Iyo uri umuntu iyo uvuze ikintu atantumbera ubufise kugikora.
Tu auras des problèmes pour croire la parole de Dieu.
Bizokugora gutahura no kwemera ijambo
ry'Imana. Parce que tu manques d'intégrité.
Kuko ubwawe urabuze
manquer d'intégrité, c'est justement de dire, de parler. Tu es là, tu dis des choses, mais tu ne les accomplis pas parce que tu n'avais aucune intention de les accomplir. Dieu n'est pas comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on serait vraiment dans la galère si Dieu était comme ça. On serait là, on dirait oui, c'est vrai, Seigneur, je lis ta parole. Mais bon, peut-être que sur cette promesse-là, tu vas revenir, Seigneur. Imaginez-vous l'embarras dans lequel nous serions. On
ne
serait pas sûr si Dieu veut accomplir ça pour nous, ou plutôt ça, ou plutôt ça. Et ça, c'est très dangereux. On serait vraiment dans des situations difficiles. Mais Dieu soit béni, parce que la Bible nous dit que Jésus est par là même le garant d'une alliance plus excellente. Notre garantie, c'est ce qu'il a accompli. Tu peux être sûr de ses promesses parce que Jésus s'est donné et c'est Dieu qui a voulu cette garantie pour nous. Dieu a voulu cette garantie pour nous. Vous savez, c'est un peu comme les banquiers. Quand vous voulez emprunter des sous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une garantie. Allez voir un banquier sans garantie, vous allez voir ce qu'il va vous faire.
C'est, c'est
une des premières choses qu'il va vous demander. Oui, on peut vous prêter de l'argent, mais vous nous donnez quoi comme garantie? Un banquier ne rentrera jamais dans un contrat s'il n'a pas quelque chose pour se garantir. Un banquier qui donne 100 millions comme ça et qui n'a aucune garantie de la part de l'emprunteur, et le banquier ne va jamais prêter l'argent. Oh oui, nous vous prêtons 100 millions parce que vous avez un joli sourire. Vous croyez qu'un banquier va faire ça? Non, un vrai banquier, il demandera quelque chose. Pour s'engager. Et vous voyez, Dieu nous a proposé quelque chose. Il nous a dit, j'ai donné mon fils. Voilà la garantie que je vous donne. La garantie pour votre éternité. La garantie pour cette nouvelle alliance. C'est Dieu qui a choisi lui-même de mettre une garantie. Pour qu'à partir du moment où on désire marcher avec Dieu, on soit sûr. Parce que nous fonctionnons par la foi. Nous sommes obligés de fonctionner par la foi, c'est notre alliance. Dieu a mis la garantie de son Fils. Il garante cette alliance avec toutes les promesses qu'il y a derrière. Le sang a coulé pour sceller cette garantie. Et quand
tu
as une promesse de la parole de Dieu, tu as juste à dire Père céleste, je sais que le sang qui a coulé, c'est la garantie pour que tu réalises ce que tu veux. C'est la garantie de ta promesse. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu es dans cette alliance. Quand tu pries, quand tu veux voir Dieu agir, invoque cette garantie. Ça va stimuler ta foi. Ça touche le cœur de Dieu. Ça montre que tu es quelqu'un qui veut vraiment fonctionner avec Dieu et qui comprend ce que Dieu a mis en garantie. Dieu ne pouvait pas mettre plus que son fils. Dieu ne pouvait pas mettre plus que le sacrifice de son fils. Cette garantie est une garantie éternelle que lorsque nous allons quitter notre corps, nous serons avec lui pour l'éternité. C'est la garantie que notre jugement est passé. C'est la garantie de toutes les promesses que nous avons sur la terre et toutes les promesses de l'éternité. Et Dieu ne pouvait pas donner quelque chose de plus grand. La Bible nous dit dans Tite chapitre 1 versets 1 et 2. Tite chapitre 1 versets 1 et 2. Vous savez, il faut que vous vous appreniez à vous tenir sur la parole. Et la parole, ça fait partie des promesses. Et les promesses sont garanties. Par le sang qui a coulé. Et ça, c'est tellement important. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps les plus anciens par le Dieu qui ne ment point.
Paulo, umugurano w'Imana, intumwa ya Yesu Kristo, biherewe kwizeza abo Imana yatoranije no kwigisha kumenya iby'ukuri gufatanije no kubaha Imana, nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira, ubw'Imana itazi kubesha yasezeraniye kera ibihe byose bitarabaho.
La troisième chose que nous allons voir à propos du sang de Jésus,
icagata tutugira turabe kubijanye n'amaraso ya Yesu,
c'est l'aspect du pardon par le sang.
N'ikintu kijanye no guharigwa kubw'amaraso.
Et nous allons faire la différence entre le pardon et la purification.
Turavuga kubijanye no guharigwa hamwe no kwezwa ubudasa buhari.
Parce que c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre concernant le sang de Jésus.
N'ikintu gihambaye dukeneye gutahura kubijanye n'amaraso ya Yesu.
Lorsque on parle que nos péchés sont pardonnés,
iyo tuvuga ngo ibyaha byacu byarahariwe,
c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus que Dieu a fait.
Qui est
quelque chose de très particulier où souvent les chrétiens ne font pas la différence. Pour cela, nous allons voir un texte dans 1 Jean chapitre 1 verset 9.
1 Jean 1
9. Et je vais vous montrer le troisième point, le quatrième point que vous devez connaître sur le sang de Jésus. Parce que ce sont des points qui sont très importants. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Regardez bien ces deux verbes qui sont importants. Le premier, c'est pardonner. Et le deuxième, c'est purifier. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Il y a une grande différence. Et un complément vraiment très important. Le pardon, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le pardon va concerner la restauration de la relation avec Dieu. Le pardon va concerner la restauration de la relation avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Le pardon concerne toujours la restauration d'une relation. Nous allons découvrir dans quelques minutes ce que fait la purification.
kwezwa navyo ico bizana.
Mais regardons bien ici, Jean nous parle de pardonner mais aussi de purifier.
Kuko ngaha Yohana atubwira ngo bitume duharira ibyaha ikatwoza no kugabita.
Regardons ensemble deux textes, Hébreux 9:22.
Abaheburayo 9:22.
Et ensuite nous verrons Romains 5 verset 10. Hébreux 9:22 en premier. La parole de Dieu nous dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, car sans effusion de sang, regardez bien cette partie de verset, il n'y a pas de pardon. » Le sang de Jésus est la base sur laquelle Dieu nous pardonne. C'est pour ça que la Bible nous parle d'être réconcilié avec Dieu. Regardons aussi ce texte de Romains, chapitre 5, verset 10. Donc la restauration de la relation. Ça, c'était très important. La Bible nous dit car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. Donc la mort, c'est bien sûr son sang qui a été versé. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le pardon, lorsque nous sommes venus à Christ la première fois ou lorsque même nous péchons dans notre vie chrétienne, permet de restaurer notre relation avec le Père. Rappelez-vous d'une chose. Le premier problème que Dieu avait avec l'homme, c'était son péché. Et ce que Dieu a fait d'abord, c'est le pardon. Lorsque tu es venu à Jésus la toute première fois, lorsque je suis venu à Jésus la première fois, lorsque nous étions là à implorer la grâce de Dieu, nous avons demandé à Dieu de nous pardonner. Et ça, c'était fondamental. Pourquoi ? Parce que en tant que pécheurs perdus, nous étions ennemis de Dieu. C'est ce que la Bible nous montre. Nous étions ses ennemis et il a fallu que nous soyons réconciliés. Et pour être réconciliés, il a fallu que Dieu nous pardonne. Et quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi parce que ça implique que cette relation est là. Qu'elle a été restaurée. Et Dieu n'est pas là pour aller nous chercher des histoires toutes les 5 minutes sur ce qu'on avait fait quand on était pécheurs. Ou même ce qu'on a pu faire dans notre vie chrétienne alors qu'on lui a demandé pardon. Dieu n'est pas comme ça. Dans Ésaïe 43:25, la Bible nous dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc c'est important, frères et sœurs, de comprendre que ce pardon, c'est la restauration de la relation. Maintenant, il y a un autre point que nous allons étudier maintenant, c'est la purification. Parce que la purification est quelque chose de fondamental par rapport à notre éternité. La parole de Dieu est claire. Tous les péchés que les hommes ont commis depuis que Dieu a créé Adam et
Ève,
ils seront jugés par Dieu. Ou ont été jugés par Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a une justice. Dieu est le grand juge de l'univers. Le président de la Cour suprême de l'univers. Et lui, il n'est pas nommé.
Il
est de toute éternité, il sera de toute éternité.
Mais
Dieu est un juste juge. Le péché est jugé par Dieu. Partout. Dieu fera les comptes un jour. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous, nous sommes déjà passés en jugement. Et c'est ça la bonne nouvelle au travers du sang de Jésus.
Et
ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez vous appuyer sérieusement. Parce que Dieu ne nous a pas seulement pardonné. Il nous a purifié. Et la purification, ça va être quelque chose qui va impliquer la désinscription, l'effacement de ce que nous avions fait ou de ce que nous avons pu faire mais que Dieu nous a pardonné. Parce que la parole de Dieu nous montre que chaque homme qui pêche, Dieu inscrit cette œuvre dans des livres. On va le voir, c'est scripturaire ce que je vous dis ici. Regardons ensemble dans Apocalypse 20, verset 12. Il y a plusieurs fois où la parole de Dieu va nous montrer qu'il y a quelque chose qui est inscrit quand l'homme fait du mal. Mais on va voir comment Dieu a effacé cet acte, ce document pour nous. Cette parole va concerner le jugement dernier. Je sais, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment entendre des prédications sur le succès, sur la destinée. Gloire à Dieu sur ça, il y en a et il y en aura encore.
Mais
il y a des réalités spirituelles que nous devons connaître, frères et sœurs. Je vous rappelle que dans les églises, nous devons avoir un message équilibré. Nous pouvons parler de foi, de dons spirituels, de présence de Dieu.
Mais
ça, il faut le faire constamment. On peut parler de destinée, de réussite, de finance, de prière, de guérison, de toutes les bonnes choses que Dieu a pour nous. Mais aussi, nous devons aussi faire des enseignements de ce genre. Afin de régulièrement tourner et savoir de quoi Jésus nous a
rachetés.
Parce que ça, c'est le fondement de tout le reste. Dans le jugement dernier, à la deuxième résurrection, nous serons part à la première résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection de ceux qui ont marché avec Dieu. Mais la Bible dit malheur à ceux qui ont part à la deuxième résurrection. Et regardez ce que la Bible dit que Dieu va faire. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres, regardez bien, des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
Ça, c'est
la deuxième réaction. Nous nous aurons part à la première résurrection. Parce que la Bible nous montre dans Colossiens 2:14. Dans Colossiens 2:14, la Bible nous révèle quelque chose. Vraiment, Paul a reçu cette révélation puissante. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Et Paul nous révèle quelque chose de puissant qui concerne notre foi, qui concerne quelque chose qui est fondamental, qui s'est produit le jour où nous sommes nés de nouveau. Parce que le jour où tu es né de nouveau, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, ce n'est pas le baptême d'eau, c'est être immergé dans, dans la croix, ça c'est autre chose, c'est l'identification avec Christ. Vous êtes aussi ressuscité avec lui et en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez mort spirituellement par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, vous a donné la vie, transmis la vie, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, nos péchés. Il a effacé l'acte, regardez bien ce mot, l'acte, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations des autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Revenons au verset 14. Le verset 14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Verset
14.
L'acte, dans le mot grec, c'est littéralement une reconnaissance de dette écrite. Un petit morceau de papier où on dit « un tel me doit tant d'argent » et il signe, la personne qui doit de l'argent signe. C'est exactement ce que ce mot « acte » veut dire dans le grec. Un document que tu as signé, toi tu vas me dire « j'ai jamais signé de document ». Le fait de pécher, nous signons ces documents. Quand on était des pécheurs, c'est comme si on avait signé ces documents. Et le jour du jugement dernier, Dieu dit, voilà la reconnaissance de dette que tu as faite sur la terre. Je t'ai aimé, tu n'as pas reconnu cet amour. Je t'ai aimé, j'ai donné mon fils, tu n'as pas voulu de moi. Tu m'as rejeté et tu as continué à pécher contre moi. Tu t'es rebellé contre moi. Rappelez-vous que le péché numéro un qui amène les gens en enfer et qui amènera le diable aussi dans le jugement et les démons, c'est la rébellion. La rébellion envers Dieu est le péché numéro un qui amène tous les gens en enfer. Le pécheur est quelqu'un de rebelle, c'est un ennemi de Dieu. Le diable et les démons sont des rebelles. C'est le péché qui amène tout le monde en enfer. Il faut bien regarder ça. Nous étions des rebelles. Nous étions des ennemis de Dieu. Et la Bible dit qu'il a effacé l'acte, ce qu'on avait signé, entre guillemets, la reconnaissance de dette envers Dieu. Il l'a effacé. C'est ça la purification. C'est effacer. Ce que nous, l'acte qu'il y avait contre nous, rédigé contre nous, que Dieu aurait ressorti si nous n'avions pas donné nos vies à Jésus. Donc la purification va concerner la destruction du document de reconnaissance de dette que nous avions envers Dieu. Dieu a détruit ce document. Ce document n'existe plus dans le ciel. Ce document a été effacé et détruit par le sang de Jésus qui a coulé. Cette dette a été enlevée. La Bible nous parle aussi de ce qui s'est passé en nous grâce à ce sang. Hébreux 9, versets 13 et 14. Hébreux 9, 13 et 14 va nous montrer clairement ce que le sang de Jésus a purifié en nous aussi. La purification a été faite dans le ciel sur l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, sur ce papier de reconnaissance de dette,
qui
a été détruit le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, la parole de Dieu va nous montrer aussi quelque chose qui s'est passé dans notre cœur. Ça va être la purification de notre conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Rappelez-vous, le christianisme n'a rien à voir avec une religion. Ça n'a rien à voir avec un truc bizarroïde ou des histoires où on parle d'église ou de baptême ou de prière, ce n'est pas ça.
Ivya Kristo si vyamategeko si byo kubatizwa si byo idini kanaka.
La fondation du christianisme.
Ubu Kristo aho gubakiye.
C'est ce miracle de la nouvelle naissance.
Niki gitangaza kitwa kuvuka bwa
kabiri. Ce miracle de transformation.
Niki gitangaza kitwa guhinduka.
On n'est pas là pour faire de l'adhésion mais on est là pour parler de transformation.
Nitubanga tuvuga bijanye no kuba umunwani cyangwa kuba uwinjira tuvuga
guhinduka. Quand Dieu purifie un pécheur.
Imana igahindura umunyabyaha.
Quand il purifie, qu'il enlève cet acte qui le condamnait.
Ikazi koza igafuta cyacete cyakwagiza.
Qu'il l'efface du ciel.
Ikagifuta mwijuru.
Et qu'il purifie la conscience sur la terre de cette personne. Cette personne est transformée. Il y a une transformation. Et nous prêchons une transformation par la puissance de Dieu. Nous ne prêchons pas une adhésion
à
un système de pensée, à une philosophie quelconque, à une religion, à des croyances. Non.
Oh yeah.
On peut avoir des croyances et courir en enfer. C'est le sang de Jésus qui est la garantie de notre pardon et notre purification. C'est pourquoi quand vous parlez à quelqu'un qui vous dit qu'il est chrétien, il doit être capable de vous dire son expérience personnelle à l'intérieur de lui-même. Comment à l'intérieur il a été purifié aussi. Si quelqu'un ne sait pas qu'il a été purifié de ses péchés, là il y a un problème. Parce que quand tu va naître de nouveau juste avant. Il y a une conviction de péché qui est très forte.
Et
tu te sens comme étant mort à l'intérieur tellement fortement. Tu ne peux pas crier au secours à un sauveur si tu n'as pas conscience que tu es en train de couler, en train d'être naufragé. Si tu n'as pas conscience de ta perdition, comment tu peux invoquer et crier à un sauveur? Non, tu vas peut-être dire, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut soulager un peu ma misère? Faire que je me sente un peu mieux.
Mais
ça n'a rien à voir. Jésus n'est pas là pour que nous nous sentions mieux. Jésus est là pour transformer les vies et purifier les péchés. Pardon et la purification. Le pardon va nous remettre sur les rails dans une relation avec Dieu. La purification va faire effacer les choses dans le ciel et à l'intérieur de nous. C'est exactement ce que la parole de Dieu va dire. Car si le sang des boucs, des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté extérieure de la chair, donc, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai?
Ngo n'amaraso y'impene n'ay'amapfizi bo n'umunyota w'inka ucucagiwe abahumanye ko vyeze imibiri igahumanuka. Bega maraso ya Kristo uwo yitanze ku mana atagira gasembwa abitewe na mwemu ahoraho ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'impfa gusa biyirimwo biyivemwo kugira ngo mubone ingene mukorera imana nzima.
Donc quand quelqu'un sait qu'il a eu sa conscience purifiée,
iyo umuntu azi ko agatima kiwe muntu kogejwe,
il se sent libre à l'intérieur,
aca yumva guwe neza,
il a été libéré. La purification te libère totalement. Tu te sens pur à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que aucune philosophie ou religion peut apporter. Que même aucune prière répétée peut apporter. Parce que c'est une expérience surnaturelle, miraculeuse. Chaque personne qui a reçu Christ comme son sauveur a vécu. C'est ça la transformation. Et cette transformation, c'est ce que Dieu apporte. Nous allons nous lever, je ferai les autres points la prochaine fois.
Et
nous allons prier un moment ensemble. Et j'aimerais que chaque personne ce matin réfléchisse vraiment sur sa vie personnelle. C'est quelque chose qui est très important. On n'est pas là en train de prêcher une religion chrétienne, mais une transformation. Une vie transformée par la puissance de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons transformés. Que chacun puisse fermer ses yeux ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier. Parce que ton sang, Seigneur, ce sang qui a coulé pour nous, lorsque tu t'es sacrifié, c'est un sang divin. Un sang, Seigneur, qui était incorruptible. Merci parce que tu as vécu cette vie sans péché. Et lorsque ton sang a coulé, Seigneur, il a pu avoir un pouvoir de rachat extraordinaire. C'est pourquoi ce matin nous voulons te remercier. Merci parce que l'alliance dans laquelle nous sommes est une alliance immuable. Une alliance qui nous a transportés des ténèbres dans ta lumière. Une alliance qui nous garantit la vie éternelle. Une alliance qui nous promet des choses ici tant que nous sommes sur cette terre. Dans ce corps mortel. C'est pourquoi ce matin je veux te dire encore merci. Merci parce que tu n'as pas seulement pardonné nos péchés, Seigneur, mais tu nous as purifiés, Seigneur, pour l'éternité. Tu nous as purifiés. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et tu nous as donné une conscience pure, une conscience nettoyée par la puissance de ton sang.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.